qui m'a été soufflé d'ailleurs, c'est qu'on ne fera jamais un monde différent avec des gens indifférents. Voilà. Merci pour vos émissions. Au revoir.
Salut, c'est Marie-Noël à Béziers. Bonjour à tous. Eh bien voilà, la fête de l'humain. Je suis à Béziers justement depuis 52 ans. Il y a 50 ans, j'allais à 7 un dimanche. Parce que nous avions un dimanche toutes les 6 semaines à l'hôpital de Béziers. Le dimanche donc, je vais à 7 avec le train, avec ma mère. Et puis nous arrêtons chez deux copines que j'avais connues l'année précédente, une colonie de vacances en Normandie, les deux sœurs, machin. On est allé voir. Et c'était la fête à Issanka, la fête du Parti communiste, ce dimanche-là. Alors nous voilà partis, dans une deux chevaux, en tôle ondulée, là, avec l'arrière plat, avec le papa et ma mère et les deux filles et tout ça dans la deux chevaux. Nous allons à Issanka, la fête du Parti communiste. Et il y avait Jean Ferrat. Et qui nous chantait « Heureux celui qui meurt d'aimer ». C'était beau. Il y avait Isabelle Aubry. C'était il y a 50 ans. Et c'était très bien. À Issanka.
Bon, eh ben, bonjour à la fine équipe. Merci pour vos émissions superbes et géniales. Le problème en France, c'est que vous payez très très cher des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires, des moyens fonctionnaires et des petits fonctionnaires, et surtout des élus de tous bords, y compris des sénateurs, pour vous concocter et vous préparer des lois les plus intelligentes de la planète, que ces mêmes élus s'empressent de ne pas faire appliquer. Les fameux décrets d'application, mon Dieu, ça c'était l'œuvre de Christophe Colomb, il fallait y penser. Moi j'ai la chance d'être binational, français et canadien. Au Canada, quand on vote une loi, on l'applique, bordel de merde. Je me souviens, il y a longtemps de ça, quand je travaillais, j'étais fonctionnaire au gouvernement fédéral, un groupe de propriétaires ont attaqué un maire et son promoteur pour avoir violé le code d'urbanisme, pour avoir fait une opération spéculative. Eh bien, ils ont fini en prison, ces beaux messieurs. Ça a pris du temps, mais ils ont terminé leur cheminement à la Cour suprême du Canada et en prison. En France, vous votez des lois, vous ne les appliquez pas. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Alors le code du travail et tout ça, ah ben oui, mais il n'y a pas les décrets d'application. Ah, les fameux décrets d'application. Mon Dieu, c'est une bénédiction pour tous les spéculateurs, les magouilleurs, les milliardaires et tout ça. Il fallait y penser. Je vote une loi, mais je ne vote pas les décrets d'application. Et surtout, je n'applique pas la loi. Ça, c'est franco-français. Vous êtes très fiers de vous. Bravo. Continuez. Au revoir.
Je voulais parler aujourd'hui de l'économie positive. Apparemment, c'est le nouvel enfumage du moment. Donc, on a eu droit à un téléphone sonne hier soir à ce sujet. Et on a entendu M. Attali aussi ce matin, qui est le président de Planète Finance, qui s'occupe de cette notion d'économie positive, qui en est le relais principal. Voilà, donc, selon M. Attali, l'économie positive va remplacer le capitalisme. À la bonne heure, bon, il se reprend un peu plus loin en disant que l'économie positive n'est pas l'économie capitaliste traditionnelle. Bon, elle l'est donc un peu quand même, capitaliste. D'autant qu'il ne remet pas en cause le concept de croissance, ce concert qui détruit la planète. Bah ouais, si vous êtes contre la croissance, c'est que vous êtes pour que le Sénégal reste un pays pauvre, par exemple. Bon, ça c'est en gros ce qu'on entendait au téléphone sonne hier soir. Donc en somme, on nous vante un système économique qui ne remet rien en cause, mais qui compte uniquement sur la vertu de chaque entreprise pour faire passer le bien de l'humanité avant même son profit propre. On nous prend vraiment pour des andouilles. Et pour l'instant, à France Inter, on relaye ça sans même un minimum d'esprit critique. Alors vite, s'il te plaît, une petite émission là-dessus avec ton équipe, Daniel, ça serait très bien et ça nous éclairerait un petit peu plus, ça éviterait que beaucoup de gens, peut-être, se fassent un peu berner. Bon, merci beaucoup. Au revoir.
Merci pour tous ces messages, chers AMG. Je parle très bas parce que nous sommes dans un avion en direction de Las Vegas. Et oui, capitale du jeu, dans un pays qui est en proie à des problèmes électoraux. Une grande bagarre électorale, voilà ce qui nous intéresse et voilà pourquoi nous partons vers les États-Unis. Mais on ne vous laisse pas seul, on vous laisse avec quelqu'un de très très important qui s'appelle Henry Ford. Ford, ça vous dit quelque chose? Voilà, c'est notre sujet du jour. Auparavant, encore quelques messages.
Eh bien, Daniel, nous sommes deux à avoir de la peine aujourd'hui. J'ai appris ça à 13h. J'avais pas écouté la radio ce matin. Et voilà, la mort de Jean Garretto, ben je suis comme Jean-Luc, c'est à toi que j'ai pensé en premier, parce que tu en as souvent parlé, quoi. Moi, j'ai de la peine pour une autre raison, que j'ai été expliqué un peu plus tôt, parce que c'est l'anniversaire de ma fille et je ne sais pas où elle est. En fait, c'est difficile d'être séparé, et d'être séparé soit par la vie, soit par la mort. C'est difficile, quoi. Bon, et ce qui m'a plu dans l'hommage que l'a rendu Jean-Luc S, c'est qu'il a parlé de toi. C'est pas souvent qu'on entend parler de Daniel Mermet au 13h. Je l'attendais presque, en fait. C'est vrai, je t'associe beaucoup à cette émission, à ce générique. Émission que j'ai écoutée sans t'avoir repéré à l'époque. Parce que je l'écoutais un peu distraitement. Mais alors, le générique, ça, c'est quelque chose, quoi. Bon, ben, j'imagine que tu vas en parler. Bon, comme tu vas avoir beaucoup de coups de fil, je fais pas durer. Allez, bon courage à toi, et puis voilà, la vie continue, comme on dit. Et des fois, même quand elle continue pas, mais on s'est dit que la vie continue. Salut, Daniel.
Eh bien, moi, monsieur, je suis contre l'exploitation des gaz et pétrole de schiste jusqu'en Amérique. Les Américains aussi ont droit à la santé et à l'eau pure. Si la terre ne manque pas d'eau, l'eau pure est devenue un miracle là où elle existe encore. Et les moyens de la purifier acceptables pour la santé sont limités et chers. De plus, si je suis bien informée, il existe des possibilités rationnelles de la partager en cas de manque de l'un ou l'autre. Tant qu'il existe de l'eau pure. C'est Jocelyne à Bayonne.
Les prothèses. Malgré mon penchant naturel pour les femmes à forte poitrine, je vivais avec une demoiselle aussi plate qu'un square de spleen. Ma précédente partenaire, bien pourvue de ce côté-là, m'assénait de façon régulière des coups de néné et j'aimais ça. Sachant mon goût pour cette pratique, mon ami navré, c'est normal, par sa pauvreté thoracique, consulta le corps médical. Un praticien des îles Scilly, spécialiste des maigrichonnes, et virtuose du bistouri, à la place du silicone, lui implanta dans les nichons afin de leur donner du volume. Tu parles d'une idée à la con, contre 1000 euros, deux enclumes. Ainsi, équipée de ses prothèses, à peine rentrée au bercail, elle me dit « Viens là qu'on baise, tu vas soupeser ma quincaille ». À mon immense étonnement, je la vis entrer sous la couette, je vous le jure, en poussant, oui, en poussant une brouette. Tu vas voir ce que tu vas voir. Adieu mes tétons ridicules. Oublie mes petits seins en poire. Il y a 100 kilos dans ce véhicule. Or, cette brouette avait dû, par un charron mal embouché, à partir d'un bois vermoulu, être grossièrement fabriquée. Sous le poids de l'énorme fardeau, la roue en morceaux se brisa. Comme dit mon marchand de vélo, quand la roupette, c'est la cata. Et ce fut une catastrophe. Les deux enclumes prirent du ballon. J'étais pour tout dire limitrophe, je l'ai pris alternativement. La fin de l'histoire est bien triste, je la passais sur une civière, dans la salle d'attente d'un dentiste, attendant des prothèses dentaires. C'était Georges Philippe, salut.
Signe caractéristique, une énergie farouche et une franchise brutale. Pourtant, c'est un méticuleux. Il éteint toujours l'électricité avant de quitter une pièce. Son plat favori, le steak haché et le maïs bouilli.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec Guy Ventil.
Flight number 2, arriving from...
Henry Ford, premier du nom. La véritable invention du vieil homme de Détroit, dont le meilleur ami était Edison, ne fut d'ailleurs pas tant l'automobile elle-même que la chaîne de montage et la production en série, base de l'industrie moderne.
Then in the mid-20s, Ford took a lot of the most important articles from the newspaper and assembled them into a book.
Au milieu des années 20, Ford a compilé la plupart de ses articles dans un livre.
Ce qui lui permit de fabriquer en 19 ans de 1908 à 1927, 15 millions d'exemplaires du célèbre modèle T. À l'époque, on ne disait pas une automobile, mais tout simplement une Ford.
There's a lot of circumstantial evidence, in fact, that the Nazi Party, which was a struggling, fledgling party that wasn't getting anywhere because they didn't have any money to spread their ideas. There's a lot of circumstantial evidence that the money that finally vaulted them into public popularity came from Henry Ford.
Il y a des preuves vraiment substantielles qui prouvent que le parti nazi, qui à l'origine est un petit parti qui vivotait sans beaucoup de moyens, a pu progresser sur la scène politique allemande parce qu'il a été financé par Henry Ford.
1,5 million d'enfants viennent visiter chaque année le musée créé par Henry Ford à Greenfield, près de Détroit, à la gloire de l'Amérique et de l'automobile, et où sont pieusement conservés, réparés, briqués, près de 300 vieux tacos de tous les pays du monde.
Most people know Henry Ford.
Max Wallace.
From his contribution to automobiles.
La plupart des gens connaissent Henry Ford parce qu'il a apporté à l'industrie automobile.
But the reason for Ford's real power and influence was the fact that he instituted the $5 day at his car company.
La raison pour laquelle il était si influent et si connu, c'est parce qu'il avait instauré le salaire quotidien à $5 par jour dans ses usines.
When he did that, he became a hero to millions of working people throughout the world, not just in the United States.
Et quand il a instauré cette paye quotidienne de $5, il est devenu un héros pour des millions d'ouvriers à travers le monde, pas simplement aux États-Unis.
And so when he started to espouse his views on other subjects, other than industry and automobiles, he had a lot more credibility because people remembered that he was a hero. They admired him and they were willing to believe what he said.
Et comme les gens l'admiraient, le considéraient comme un héros, il a eu beaucoup plus d'écoute quand il a commencé à s'exprimer sur des sujets autres que son industrie automobile et sa manière de mener son usine.
And then all of a sudden something changed.
Mais il y a eu une cassure, tout d'un coup ça a changé.
It was very mysterious. One day he bought a weekly newspaper called the Dearborn Independent.
Et c'était très étrange ce qui s'est passé, parce qu'un jour il a acheté un journal hebdomadaire, Dearborn Independent,
and he turned it into a newspaper dedicated to attacking the Jews.
Et il a transformé ce journal en une espèce de tribune avec pour seule finalité d'attaquer les Juifs.
At that time, there was very little anti-Semitism in the United States.
À une époque où il y avait très très peu d'antisémitisme aux États-Unis.
Jews weren't welcome into the country clubs and into the bastions of the rich. But the average American had nothing against Jews at that time.
Les Américains moyens n'avaient rien contre les Juifs à l'époque, même si les Juifs n'étaient pas acceptés, n'avaient pas leur place dans les country clubs et les bastions où se retrouvaient les riches.
In Europe, there was already a growing anti-Semitic movement following World War I. People associated the Jews with communists. Poor people were told that the Jews were rich, they were all rich, they ran the banks, and that they were the enemy.
Alors qu'à la même époque, en Europe, il y avait quand même un mouvement croissant d'antisémitisme où les Juifs étaient accusés d'avoir toutes les commandes sur l'économie et aussi les Juifs étaient soupçonnés d'avoir des liens avec le communisme et de comploter dans ce sens-là pour des raisons politiques.
But in the United States, people did not have anything against the Jews and they hadn't heard these stories about the Jews.
Alors qu'aux États-Unis, il n'y avait pas ce sentiment contre les Juifs.
Suddenly, this newspaper started telling Americans that the Jews were responsible for all the ills of society.
Mais à partir de ce moment-là, et dans ce journal propriété de Henry Ford, on a commencé à écrire et dire aux Américains que les Juifs sont responsables de tous les maux.
Donc Henry Ford a inventé l'antisémitisme américain.
Exactement. Not only did Henry Ford invent American anti-Semitism, but he pioneered a very vicious form of anti-Semitism. If you read Ford's newspaper, you would think that the Jews need to be eliminated from American society.
Non seulement il a créé cet antisémitisme, mais surtout il a donné un tour très très particulier et très très pervers. Il est passé à l'étape supérieure en disant les Juifs sont la menace et il faut éliminer cette menace du sol des États-Unis.
And one of the key points that the newspaper kept hammering over and over and over again was that the Jews were responsible for international communism.
Et un des points récurrents qui revenait encore chaque jour et encore dans ce journal, c'était que les Juifs étaient responsables du complot communiste mondial.
Comment vous avez découvert ça? Est-ce que c'est quelque chose que tout le monde savait?
Very few people are aware of the relationship between Ford, Lindbergh and the Nazis. At one time, it was more widely known, but there's been a very concerted effort to rehabilitate their reputations.
Très peu de gens savaient, étaient au courant des liens entre Lindbergh, Ford et les nazis. À l'époque, ça se savait, mais il y avait un effort vraiment délibéré pour essayer d'étouffer cette affaire.
The Ford Motor Company has tried to sanitize the reputation of Henry Ford because it reflects badly on the company.
Parce que c'était une très mauvaise image pour la compagnie Ford de voitures, et donc ils ont essayé de nettoyer son image.
For the first time in history, you'll see not one, not two, but three completely new kinds of Ford cars for 1960. A wonderful new world of Fords. First, representing the 1960 Fords, the finest Fords of a lifetime, the magnificent new Galaxy.
Live a wondrous new life in the Fords of a lifetime. The finest new Fords of a lifetime. In a beautiful, wonderful new world of Fords.
Beautiful from any point of view, worth more from every point of value. The 1960 Fords open up a whole wonderful new world of styling, elegance, and built for people comfort.
On l'entend, c'est pas une pub, c'est un hymne à une civilisation. Et on l'entend là, la petite machine, le rouage du Charlot, du Chaplin des temps modernes. Henry Ford a inventé le Fordisme. Et qu'est-ce que c'est que le Fordisme? Il y a ce système de $5 a day, c'est-à-dire qu'on est payé $5 par jour, ce qui est une augmentation, ce qui était à l'époque une augmentation importante du salaire. En échange de quoi, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on travaille à la chaîne. On travaille à la chaîne, on ne demande pas de penser. Taylor, l'autre, l'inventeur du taylorisme, disait aux ouvriers... Vous ne pensez pas, il y en a qui sont payés pour ça. L'ouvrier, à la chaîne, ne pense pas. Il fait des gestes automatiques. C'est le taylorisme, c'est le fordisme, ce qui permet d'augmenter considérablement la productivité, mais aussi ce salaire $5 a day permet à l'ouvrier de consommer. Et Ford va inventer à la fois le travail à la chaîne, le travail en miettes, c'est-à-dire les temps modernes, Chaplin, et en même temps, la consommation de masse. Quel lien y a-t-il entre ça et les convictions antisémites, comme le dit Max Wallace, de Henry Ford? Son soutien à l'Allemagne nazie, peut-on faire un lien entre les deux? Ça reste une hypothèse. Une hypothèse voisine d'un livre de Philip Roth, le grand écrivain américain contemporain, qui a sorti un bouquin qui a eu un grand retentissement, qui s'appelle « Le complot contre l'Amérique ». Et il prend l'autre personnage. Là, c'est une fiction, mais c'est une fiction qui va loin. Il imagine, Philip Roth, qu'à l'élection présidentielle de 1940, les Américains portent à la Maison-Blanche, non pas Roosevelt, comme ils l'ont fait, mais... Charles Lindbergh, l'aviateur adulé qui avait réussi, vous vous souvenez, cette légende, à traverser l'Atlantique dans son petit avion, était aussi un antisémite notoire. Et Roth imagine qu'il est élu. C'est lui qui est élu, il est tellement populaire. Vous savez ce que c'est que les présidents très populaires qui sont élus? Eh bien, voilà, il imagine que Lindbergh est élu et aussitôt, Lindbergh signe un pacte de non-agression avec Hitler. C'est le départ de ce roman qui est une fiction, mais qui bien sûr réinvente, revisite l'histoire, mais interroge aussi notre présent, bien évidemment. Sauf que là, avec Max Wallace, c'est pas une fiction dont nous parlons, c'est de l'histoire vraie, la véritable histoire de la marque Ford à travers son fondateur Henry Ford.
Then in the mid-20s, Ford took a lot of the most important articles from the newspaper and assembled them into a book.
Au milieu des années 20, Ford a compilé la plupart de ses articles dans un livre.
The book was called The International Jew and it was translated into more than 20 languages where it gained widespread acceptance all through the world.
Et ce livre s'appelait The International Jew, le juif international, qui a été traduit dans plus de 20 langues, ce qui a vraiment donné de plus en plus de poids à cette idée, à cette idéologie.
It was popular in Italy, it was popular in France, but nowhere was it as well received as it was in Germany.
Bien sûr, ça a été lu en Italie, c'était très populaire, ou ça a été lu en France aussi, mais nulle part il n'y a eu un aussi bon accueil de ce livre antisémite qu'en Allemagne.
One of the most important contributions in the newspaper and in the International Jew was the widespread introduction of something called the Protocols of the Elders of Zion.
Ce qui était repris dans ce livre, c'était une introduction en fait au texte de l'époque qui était le protocole des sages de Sion.
The Protocols was a forgery that alleged to talk about a high-profile international meeting where the Jews got together to conspire to control the world.
Ce protocole des sages de Sion était un faux qui accréditait l'idée fantasmée de réunion secrète d'un complot international de juifs.
It was immediately discredited as a forgery, but because Henry Ford put his credibility behind it and his reputation, people were willing to accept its conclusions.
Et même si tout de suite à l'époque ça a été dénoncé comme un faux, parce que Henry Ford l'avait soutenu, ça a pris plus de poids et ça lui a donné une crédibilité.
And the most important idea that was introduced by the International Jew and by Henry Ford was that it was Jews that were responsible for communism and it was Jews that were responsible for the defeat of Germany in World War I.
Et cette idée récurrente qui était amenée dans ce livre de Henry Ford, c'est les Juifs sont responsables de la montée du communisme et les Juifs sont responsables de la défaite allemande à la Première Guerre mondiale.
Mais ces écrits étaient connus, le journal que vous citez, que Ford avait acheté de Dearborn Independent, était lu par des centaines de milliers de lecteurs. Ça veut donc dire que les Américains savaient que les collaborateurs de Ford connaissaient ses opinions, que les clients, etc. Quelles ont été les réactions aux États-Unis à ses écrits et à la publication du bouquin?
A lot of newspapers and intellectuals and even political figures in the United States immediately condemned Ford.
Ford a été immédiatement condamné par beaucoup d'intellectuels et aussi des personnalités politiques de l'époque.
They condemned the anti-Semitism and they labeled a lot of the accusations as nonsense.
Et ils ont condamné cet antisémitisme et aussi relevé que beaucoup des propos qui étaient tenus étaient vraiment des absurdités.
Even the president of the United States denounced these ideas.
Même le président des États-Unis avait officiellement pris position contre ces opinions.
But for millions of Americans, if Henry Ford said it, then it must be true. He was a genuine hero in America at that time.
Mais pour les millions d'Américains, pour qui Ford était vraiment un héros populaire à l'époque, si Henry Ford l'avait dit, c'est que ça devait être vrai.
Ford even used his car dealers to distribute The International Jew.
Ford a même utilisé son réseau de revendeurs de voitures pour distribuer son livre sur le juif international, The International Jew.
Ford built tanks for the Nazis, and the Nazis used those tanks to gun down lots of soldiers in the U.S. Army ranks. Yes, Henry Ford was a fascist, and a nasty one was he. He built tanks for anyone for the proper fee. Henry Ford spoke to his lackeys, and he said, "Isn't this great? We'll attack our enemies and we'll retaliate." Yes, Henry Ford was a fascist and a cunning liar too. A brown shirt with a swastika draped in red, white, and blue. Henry Ford spoke to his workers and he said, "You dare not strike. You must be patriotic and take on my Third Reich." Yes, Henry Ford was a fascist and he had not a care about the dying soldiers that made him a billionaire. Ford built tanks for the Nazis, and he built many more to gun down lots of peasants in Peru and Salvador. Yes, Henry Ford was a fascist, I heard that when he died. The last words to leave his lips was Arbeit macht frei. Yes, the dollar was his icon on whichever shore, and Henry's only motto was make money and make war. Yes, Henry Ford was a fascist, that's all I have to say. I will spit on Henry's rotting grave until my dying day. Yes, Henry Ford was a fascist, that's all I have to say. I will spit on Henry's rotting grave until my dying day.
Now, fast forward many years to the Nuremberg war crimes trials after World War II. In my research, I discovered that a lot of Nazis, when they took the stand at Nuremberg and they were asked what was the origin of their anti-Semitism. Most people expected them to say, well, I saw Adolf Hitler, I heard his ideas, and I became an anti-Semite.
Et si on fait une petite avancée rapide dans l'histoire, après la Deuxième Guerre mondiale, au moment des procès de Nuremberg, où il y a eu le procès de tous les dignitaires nazis, quand l'accusation leur demandait d'où vient votre antisémitisme, pourquoi êtes-vous antisémite, contrairement à ce que beaucoup de gens pensaient, c'était pas parce qu'ils avaient lu ou entendu Adolf Hitler.
But in fact, many prominent Nazis said that they were influenced not by Hitler, but by Henry Ford. They read The International Jew and they became anti-Semitic. That's before most of them had ever heard of Adolf Hitler.
Non, la référence qui est sortie dans la bouche de beaucoup de dignitaires nazis sur la raison de leur engagement antisémite, c'était pour avoir lu les livres de Henry Ford.
And nobody seems to have been more influenced by Henry Ford and The International Jew than Adolf Hitler himself.
Et personne ne semble avoir été plus influencé par le livre de Henry Ford sur le juif international que Adolf Hitler.
In fact, Ford is the only American that's mentioned in Mein Kampf.
C'est le seul Américain qui est cité dans Mein Kampf de Adolf Hitler.
There's a lot of circumstantial evidence, in fact, that the Nazi Party, which was a struggling, fledgling party that wasn't getting anywhere because they didn't have any money to spread their ideas. There's a lot of circumstantial evidence that the money that finally vaulted them into public popularity came from Henry Ford.
Il y a des preuves vraiment substantielles qui prouvent que le parti nazi, qui à l'origine est un petit parti qui vivotait sans beaucoup de moyens, a pu progresser sur la scène politique allemande parce qu'il a été financé par Henry Ford.
And we know for a fact that Adolf Hitler was inspired by Ford because a Detroit reporter came to his Munich headquarters to interview him in 1931. And when she got to the office, she couldn't help but notice a huge portrait of Henry Ford over Hitler's desk.
Il y a une journaliste de Detroit, une journaliste américaine, qui allait faire un portrait d'Adolf Hitler en 1931 dans le bureau de son parti à Munich. Et la première chose qu'elle a vue, c'était un énorme portrait de Henry Ford dans le bureau d'Adolf Hitler.
At the end of her interview, she asked Hitler, why do you have a portrait of Henry Ford over your desk?
Et bien sûr, à la fin de l'entretien, de l'interview, elle lui a demandé, mais pourquoi avez-vous ce portrait de Henry Ford?
He said, the reason is simple. I regard Henry Ford as my inspiration.
Et Hitler a répondu à ce moment-là, la raison est claire, c'est que Henry Ford est une de mes sources d'inspiration.
Our Ford, à la place de Our Lord, notre Dieu, Our Lord. Et Aldous Huxley, dans Le Meilleur des Mondes, dit Our Ford. Il compare imaginairement Ford et Lord. C'est dire la place que pouvait avoir Ford dans l'imaginaire et dans les symboles des États-Unis. Et d'où cette histoire surprenante. Et là, il est fait allusion, Max Wallace fait allusion à cet article du New York Times, mais dans le même journal en 1923, il y a un témoignage d'un certain Erhard Auer, qui est vice-président de la Diète bavaroise et qui accuse Ford de financer Hitler parce qu'il était favorable à son programme et prévoyait, je cite la Erhard Auer, l'extermination des Juifs en Allemagne. Donc ce vice-président de la Diète bavaroise en 1923 connaissait les intentions d'Hitler. Donc une histoire surprenante et peut-être que la plus grosse surprise, c'est qu'elle soit à ce point méconnue. Et d'ailleurs, à ma connaissance, le bouquin de Max Wallace avec qui nous parlons, de American Axis, n'est pas encore, je pense, traduit en français. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui, Max, que l'image de Ford, des automobiles Ford, de la légende Ford, du Fordisme, etc., soit absolument blanchie de l'histoire que vous nous racontez?
The Ford Motor Company is one of the richest corporations in the world.
Ford Motor Company est une des plus riches entreprises au monde.
And in fact, the company suffered greatly when Ford started his crusade against the Jews.
D'ailleurs, à l'époque, la compagnie avait vraiment pâti de cette croisade anti-juif menée par Ford lui-même.
Profits were going down. Jews were boycotting.
Les juifs, parce que les juifs boycottaient les voitures, les bénéfices étaient en chute libre.
Even Hollywood, which was hugely influential, was threatening to show car crashes involving Ford vehicles as a way of getting revenge for his anti-Semitism.
Même dans l'industrie du film de Hollywood, qui s'opposait à ça, il y avait des menaces justement d'utiliser pour les scènes de carambolage ou les scènes d'accident de voiture, des voitures Ford pour renvoyer un peu la monnaie de sa pièce à Henry Ford.
So there was a lot of pressure on Ford to stop his crusade.
Donc il y avait vraiment une pression contre Ford pour arrêter cette espèce de croisade antisémite.
And so in 1927, 7 years after he began his crusade against the Jews, he came out and issued an apology. And he pretended that he didn't even really know what was being printed in his newspapers and that he didn't agree with all this hate diatribes against the Jews.
Et donc, dès 1927, c'est-à-dire 7 ans après qu'il ait vraiment commencé à avoir cette croisade antisémite, il a fait un texte où en disant qu'il s'excusait, qu'il ne savait d'ailleurs même pas ce qui était publié dans ce journal et qu'il n'y était pour rien.
So, you know, a lot of Jews never forgave him for what he did. And in the Jewish community, there was still a lot of bitterness towards Ford.
Mais beaucoup de Juifs ne lui ont jamais pardonné, et dans la sein de la communauté juive, il y avait beaucoup d'amertume contre Henry Ford.
But most other Americans eventually forgot.
Et la plupart des Américains moyens ont oublié.
Or they accepted his apology at face value.
Ils ont pris ses excuses pour argent comptant.
So Ford learned his lesson. He never publicly came out against the Jews.
Et donc Ford a retenu la leçon. Il n'a plus jamais, à partir de ce moment-là, pris position ouvertement, publiquement contre les Juifs.
But behind the scenes, he still believed everything that he wrote about before.
Mais il gardait toujours ses opinions, il croyait toujours fermement en ses croyances antisémites.
And his bitterness against the Jews was as strong as ever, it was just more clandestine.
Et ça nourrit encore davantage son ressentiment à l'égard des Juifs, sauf qu'il l'a maintenu caché.
Oi, oi, Gewalt, Gewalt!
What's the matter, Abram?
Did you see the Yiddish Journal this morning, David?
No, what did it say?
Well, I don't mind telling you that I'm so happy I could cry.
You're looking simply great. Why don't you celebrate?
I bought myself a quart of hooch, a color, mit a tie.
Well, if I see you making whoopee, what's your alibi?
I was sad and I was blue, but now I'm just as good as you, since Henry Ford apologized to me.
That's why you threw away your little Chevrolet and bought yourself a Ford coupe.
I told the superintendent that the Dearborn Independent doesn't have to hang up where it used to be.
You're happy now because he settled half the case.
I'm sorry I cut off my nose to spite my race.
Are you glad he changed his point of view?
Yes, I like even Edsel too.
Since Henry Ford apologized to me, I put the family jewels in hock and bought myself a share of stock. Since Henry Ford apologized to me, I hear you had a baby yesterday and named it Henry Right Away. For what I thought about that guy, my wife is telling me that I should send him also my apology. You got some viscous and tied it on your Ford somehow.
And everybody thinks I've got a Lincoln now.
I saw the brand new cars he makes.
Instead of Lizzie's, they'll be Jake's.
Since Henry Ford apologized to me.
Suddenly, World War II starts.
Après, la Deuxième Guerre mondiale a commencé d'un coup.
12 years after Ford's apology.
12 ans, donc après les excuses publiques de Henry Ford.
And when war broke out in Europe, it took another 2 years for the United States to enter the war.
Quand la guerre a commencé en Europe, il a fallu 2 ans avant que les États-Unis aussi entrent en guerre.
Once France fell, the only thing standing between Hitler and the invasion of England and complete domination of Europe was air power.
Après la capitulation française, la seule chose qui pouvait empêcher l'invasion de la Grande-Bretagne par Hitler, c'était la puissance aérienne.
And so the British Royal Air Force needed airplanes and they needed airplane engines.
Donc la Royal Air Force, l'armée de l'air britannique, avait besoin d'avions et des moteurs dans ces avions.
And Ford, the Ford Motor Company, was one of the most important manufacturers of airplane engines.
Et la compagnie Ford était un des principaux constructeurs de moteurs d'avion à l'époque.
So, on the eve of the Battle of Britain, the British government attempted to place a very large order for airplane engines with the Ford Motor Company.
Donc vraiment avant la bataille d'Angleterre, le gouvernement britannique a voulu faire une commande très très conséquente de moteurs d'avion à la compagnie Ford.
Henry Ford absolutely refused.
Et ça a été refusé catégoriquement par Henry Ford en personne.
The contract was worth tens of millions of dollars, but Ford said, "Oh, I'm neutral, I will not support any aggressor."
C'était un contrat d'une valeur de plusieurs dizaines de millions de dollars et Henry Ford dit non, 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 je suis neutre, je ne veux pas soutenir aucun des deux parties engagées dans la guerre.
La neutralité.
The only problem with that argument is that we know that at the same time as he refused the British airplane contract, his company in Germany was turning out huge amounts of trucks, tanks and airplane engines for the German army and the Nazis.
Le problème, c'est qu'au même époque où il refusait de soutenir les forces de guerre britanniques, on sait que sa compagnie est basée en Allemagne. Elle était en train d'aider d'une manière très très importante en avion, en camion, en moteur. Sa compagnie est basée en Allemagne. Elle était en train d'aider d'une manière très très importante en avion, en camion, en moteur.
Plane engines to England. He was neutral, but it was because he wanted Germany to win. He wanted the Nazis to take over Europe.
Et c'est pour ça qu'on sait que si Ford a refusé d'aider participer à l'effort de guerre britannique, c'est pas parce qu'il voulait rester neutre, c'est parce qu'il voulait que l'Allemagne nazie gagne cette guerre.
And that's an important part of the story. Many industrialists collaborated with the Nazis. Many car companies made trucks and army vehicles for the Nazis, General Motors in the United States, Renault in France.
Alors c'est ça qui est très important, c'est qu'il y a beaucoup d'industriels qui ont collaboré avec le nazisme, comme General Motors, comme Renault en France.
Porsche.
The biggest difference between Ford and these other industrialists that were collaborating with Hitler was that most of them were doing it for the money. There's an old industrial tradition that you'll sell to whoever is willing to buy for the sake of profit.
Sauf que la différence entre Ford et beaucoup de ces industriels, quel que soit leur secteur, c'est qu'ils le faisaient la plupart pour l'argent. C'est un axiome du business qui dit que peu importe avec qui on fait des affaires, l'important c'est de faire des affaires.
But for Ford, it was the opposite. Ford actually gave up tens of millions of dollars in profits, which was highly unusual. Ford wanted the Nazis to win, and that was the difference between Ford and these other industrialists that collaborated with Hitler.
Mais Ford, c'est très différent de ça. Au contraire, Ford a refusé des contrats de dizaines de millions de dollars parce qu'il voulait que les nazis gagnent la guerre. C'était lui pour des raisons idéologiques, à la différence des autres industriels.
1943, l'Amérique est en guerre. Les usines Ford fabriquent des jeeps, des tanks et des avions. Pourtant, l'Empire est au bord de la faillite. Le glorieux grand-père est devenu tristement sénile. Il est un jouet entre les mains de son ancien garde du corps, un boxeur nommé Harry Bennett, dont il a fait son directeur. Son fils Edsel, écrasé par un père autoritaire, est littéralement mort de chagrin à 50 ans. L'Empire appartient alors à trois personnes, le grand-père, la grand-mère et la bru. C'est alors que les deux femmes, soutenues par le gouvernement américain, se révoltent contre le grand-père et décident, il faut rappeler le petit. Le petit, c'est Henry Ford, 26 ans, deuxième du nom. Le prince héritier qui fait la guerre dans la marine comme son contemporain, Jack Kennedy.
Sauf que le prince héritier de la légende n'arrivera pas tout à fait à faire oublier non seulement les convictions antisémites et pro-nazis du grand-père, du créateur de Ford, Henry Ford, la marque Ford, mais son soutien fondamental au nazisme, à Hitler, à l'idéologie d'Hitler, et ce soutien économique, industriel, sans faille, à la guerre menée par le nazisme contre le reste du monde. On est avec Max Wallace, on est à Toronto, autour de son livre « The American Axis ».
I discovered evidence in the US National Archives that the American government had accumulated enough evidence to charge Edsel Ford with trading with the enemy.
J'ai fait des recherches dans les archives américaines et j'ai les preuves que les gouvernements américains avaient accumulé un dossier à charge qui montre l'implication du fils de Henry Ford, Excel Ford, qui était le président à l'époque de la compagnie, qui aurait pu concrètement être condamné pour complicité avec l'ennemi.
But Ford suddenly died of cancer in 1943, so the charges had to be dropped.
Mais il est mort d'un cancer assez vite en 1943, donc toutes les poursuites ont été abandonnées.
But there's definitely proof that the Ford Motor Company was helping America's number one enemy.
Mais il y a des preuves claires et établies que la compagnie Ford aidait à l'époque de la guerre l'ennemi numéro un des États-Unis.
This is absolutely shocking.
Et ça, c'est très choquant.
The Ford Motor Company has since maintained that it lost complete control over its operations in Europe during the war.
Pour sa défense, la compagnie Ford a toujours dit qu'il n'avait aucun contrôle sur ses usines dans l'Europe occupée.
And we know for a fact that this is a lie.
Mais on sait de fait que c'est un mensonge.
Not only did Ford collaborate with the enemy, but we know that they used concentration camp labor even before America entered the war.
Non seulement Ford a collaboré avec l'ennemi, mais on sait qu'il a utilisé la force de travail des camps de concentration avant même que les États-Unis rentrent en guerre.
At the time when Ford still controlled, when Ford America still controlled its German operation.
Donc c'est à l'époque où l'Amérique, l'usine Ford contrôlait encore ces usines implantées en Allemagne, puisque les États-Unis n'étaient pas encore en guerre contre l'Allemagne.
It was very happily using both concentration camp laborers and slave laborers in its plant.
Il utilisait le travail forcé et le travail des camps de concentration dans ses usines dès avant l'entrée en guerre des États-Unis.
Although Ford America had no access to the profits the company was amassing during the war, the money was actually set aside in a separate bank account by the Nazis. Other companies had all the profits seized and all the profits went right into the Nazi war machine.
Pendant la guerre, la compagnie Ford ne profitait pas directement de ce travail et de ses usines, mais alors que toutes les usines qui étaient passées sous le contrôle nazi voyaient toutes les recettes et tous les bénéfices réinvestis dans l'effort de guerre nazi, l'argent qui était produit dans les usines Ford était mis délibérément sur un compte à part.
And when the war ended, those profits were funneled back into Ford America, and they gladly took that money. The company had no moral qualms about taking it.
Et à la fin de la guerre, cet argent a été restitué à Ford USA, qui l'a repris sans rien dire.
You can see these cars at your Ford dealer showroom now. The Falcon, the Thunderbird, and the 1964s.
There's a big, wide, wonderful world of new Fords, newly proportioned for you, Fords. Oh, beautiful, wonderful, beautiful, wonderful, beautiful, wonderful, new world of Fords.
Comment s'est passée la publication du livre et comment ça a été reçu votre bouquin?
Well, the Ford Motor Company is one of the largest advertisers in the United States.
Oui, la compagnie Ford est un des plus grands annonceurs aux États-Unis.
In fact, it was very difficult to get newspapers to review my book because they didn't want to do anything to alienate or anger the Ford Motor Company.
Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de problèmes pour avoir ne serait-ce qu'une revue de presse de mon livre dans les médias américains parce qu'ils avaient peur de perdre des recettes publicitaires.
And that's how Ford continues to whitewash its reputation.
Et c'est comme ça que Ford continue à blanchir son image.
So as a result, most Americans still don't know just how complicit the company was in the German war machine and how much of the profits have been used. The profits from slave labor and concentration camp labor have been used to build up the Ford Motor Company into one of the world's most powerful and richest companies.
Et voilà, et la majorité des Américains ne savent pas aujourd'hui à quel point Ford a été complice de la guerre du côté allemand et à quel point elle s'est enrichie et a bénéficié du travail forcé pendant la guerre pour devenir une des compagnies les plus puissantes au monde.
And so this is part of the whitewash. The Ford Motor Company has tried to completely distance themselves from any of the crimes of the past and absolve themselves of any responsibility.
Il y a vraiment eu un nettoyage complet de l'image de Ford qui a voulu s'exonérer, se distancier complètement de toute sa responsabilité dans le passé.
Elle s'est opérée comment ce nettoyage de l'image de Ford?
Well, of course, they do control hundreds of millions of dollars in advertising dollars. So
bien sûr, ça passe déjà par les centaines de millions de dollars d'investissement en publicité que fait Ford.
This gives them a lot of power over public opinion and the media.
Ça donne énormément de pouvoir sur l'opinion publique et sur les médias.
And what shocked me is that a few years ago, on the 100th anniversary of the founding of the Ford Motor Company, the company was running television commercials. Millions of dollars of television commercials.
Ce qui m'a choqué, c'est qu'il y a quelques années de ça, quand la compagnie Ford célébrait ses 100 ans d'existence, elle a une campagne de publicité à la télévision de millions de dollars.
Celebrating its founder, Henry Ford, and what a great man he was.
Et tout ça à la gloire du fondateur Henry Ford et de quel grand homme il était.
And so they've been very successful at erasing their past.
Ils ont vraiment réussi à effacer tout ce passé.
And whitewashing history.
Et à vraiment se blanchir de toute leur implication dans l'histoire.
You know, those that don't remember history are condemned to repeat it.
Et ceux qui ignorent l'histoire sont condamnés à la répéter.
On se fait des
lignes
en
Ford Mustang
et
bang.
On embrasse les platanes
Mas
à gauche. À droite et à gauche, à droite. Un essuie-glace, un paquet
cool,
un
badge
avec un script dessus.
Keep cool.
Une barre de chocolat, un
Coca-Cola.
On se fait des
Mustang,
et
bang.
On embrasse les platanes.
Mus
à gauche,
tang
à droite et à gauche à droite. Une bouteille de
fluid makeup,
un
flash,
un
browning
et un
pick-up.
Un briquet
Zippo.
On se fait des
lignes
en
Ford Mustang
et
bang.
On embrasse les platanes
Mus
à gauche,
tang
à droite et à gauche à droite. Un numéro
Paco Rabanne,
une photo
de Marilyn,
un tube
d'aspirine.
On se fait des
lignes
en
Ford Mustang
et
bang.
On embrasse les platanes
Mus
à gauche.
C'était Bonjour, Monsieur Ford, une nouvelle diffusion d'un reportage de Daniel Mermet avec Guy Vanctil et le journaliste canadien Max Wallace. À l'occasion de la sortie du coffret CD, un morceau de Chiffon Rouge, mars 1979, juin 1980, Lorraine Cœur d'Acier, les auteurs de ce documentaire radiophonique, vous donnent rendez-vous à la soirée de présentation jeudi 20 septembre à partir de 20h à la Java, 105 rue du Faubourg du Temple, dans le 10e arrondissement de Paris. Thank you. À noter aussi la sortie d'un documentaire intitulé « La dette », issu d'un travail collectif. Ce film retrace l'histoire de la dette et de la fabrication de l'argent. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le blog ladettelefilm.blogspot.com. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, sur le site la-bas.org, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. À la technique aujourd'hui, il y avait Dofar Guérid et Jean-Philippe Jeanne, à la réalisation Dimitri Gronoff et Chloé Sanchez, assistant Pierre-Yves Bulteau et au répondeur Solène Cordier. Le numéro du répondeur de Là-bas si j'y suis est le 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37. Parti en reportage à Las Vegas avec Guy Van Til pour couvrir les élections américaines. On fait quelques kilomètres en chanson avant de retrouver Daniel Mermet à la fin du mois en direct sur France Inter. Batlick et Thomas Pithiot.
Périphérique est bouché comme un vieux. Il pleut, les cons sont sortis, on en fait partie. Un 1er juillet à 8h30, 657 km avant de se mettre à travailler. Sandwich rancy, café tout pourri et une vague odeur de pied. L'ambiance est au plus bas, chacun a emporté ses emmerdes sous bras, ses problèmes de cœur, ses problèmes de fric, ses problèmes de cul et d'acétique. 444 km avant de se mettre à travailler. Je regarde dehors, mais la route et le décor ne m'empêchent pas de penser. Mesdames et messieurs, veuillez nous excuser, mais les artistes sont indisposés. Ils disent que c'est un jour à rien foutre, un jour à glander, mais pas un jour pour jouer. Quelle essence marchons-nous? Quelle est notre énergie? Qu'est-ce qui nous donne le goût? Qu'est-ce qui procure l'envie? Qui est celle ou celui qui donne et reprend tout? Mais quel est donc l'empathie qui s'est permis d'attacher à mes poignets 657 kg de chaîne et de boulets? Secondes avant d'aller mélanger les ondes, le temps se dilate doucement, on entend les gens derrière le rideau et maintenant 444 cm avant que le micro ne touche mon nez. Je regarde un instant le type au premier rang et commence à chanter. Mesdames et messieurs, veuillez nous excuser, mais les artistes sont indisposés. Ils disent que c'est un jour à rien foutre, un jour à glander, mais pas un jour pour jouer. Mesdames et messieurs, veuillez nous excuser, mais les artistes sont indisposés. Ils disent que c'est un jour à rien foutre, un jour à glander, mais pas un jour pour jouer.
Et dans quelques minutes sur France Inter, Frédéric Lodéon.
Être utile à Emma, c'est lui permettre un accès rapide à l'électricité et au gaz naturel.
Moi c'est Emma et j'ai vécu un vrai cauchemar avec mon déménagement. J'ai même pensé que j'y arriverais jamais. Heureusement, pour mon électricité et mon gaz naturel, on m'avait conseillé le service express déménagement de GDF Suez Dolce Vita. Hyper simple, en deux clics c'était réglé et en moins de 24 heures on m'a recontacté. Du coup j'ai failli leur demander de s'occuper aussi de mes cartons.
Et du 1er au 30 septembre, les frais de mise en service sont offerts pour l'électricité et le gaz naturel. Offre soumise à condition. Rendez-vous sur électricité-gazexpress.fr.
GDF Suez Dolce Vita, être utile aux hommes.
L'énergie est notre avenir, économisons-la.
SNCF, aujourd'hui, la rentrée à petit prix. Bonjour, je ne suis actuellement pas disponible pour l'enregistrement de ce spot radio. Et oui, avec tous ces petits prix, j'ai prolongé mes vacances à la plage et à la campagne aussi. Et pourquoi pas à la montagne? Merci de me recontacter ultérieurement ou de laisser un message après le bip.
Bon, jusqu'au 25 septembre, profitez de billets TGV des 30 euros pour des voyages du 14 septembre au 21 octobre. Offre soumise à condition, également disponible avec Intercité.
SNCF.
Chérie, tu sais qu'en tant que fonctionnaire, on a aussi droit aux chèques vacances?
T'es sûre?
Mais oui, les chèques vacances, c'est pour les fonctionnaires autant que pour les salariés. C'est valable pour toutes nos vacances et pour nos loisirs. Il suffit de les demander.
Ok, je sors les valises.
Pour vous, fonctionnaires, l'État élargit les conditions d'accès aux chèques vacances. Rendez-vous vite sur ancv.com pour calculer votre pouvoir d'évasion. C'était un message du ministère de la Fonction publique et de l'ANCV.
France Inter présente le concert solidaire. À l'occasion du 30e anniversaire d'Handicap International, humoristes et chanteurs se succéderont sur scène. Idir, Trio, Kev Adams, Yael Naïm, Didier Benuro, Staff Benda Bilili et bien d'autres. Pour un spectacle exceptionnel, le samedi 29 septembre au Casino de Paris. Plus d'infos sur franceinter.fr.
France Inter présente Après la bataille, un film de Yousri Nasrallah au cinéma le 19 septembre. Mahmoud est l'un des cavaliers de la place Tahrir qui, le 2 février 2011, manipulé par les services du régime de Moubarak, charge les jeunes révolutionnaires. C'est à ce moment-là qu'il fait la connaissance de Rim, une jeune égyptienne, divorcée, moderne et laïque. Retrouvez Après la bataille de Yousri Nasrallah dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
Bon après-midi sur France Inter, il est 16h. Les informations, Laetitia Gaillet, bonjour.
Bonjour, une centaine de ressortissants américains ont été évacués dimanche de Tunis, on l'apprend aujourd'hui. Cela fait suite à l'attaque de l'ambassade des États-Unis par des manifestants contre le film anti-islam, c'était vendredi. Une évacuation donc en toute discrétion au moment où des militants salafistes participaient aux obsèques de 4 personnes tuées lors du rassemblement de vendredi. Par ailleurs, on apprend à l'instant que les forces de sécurité tunisiennes encerclent actuellement une mosquée de Tunis où s'est retranché un dirigeant salafiste protégé par plusieurs centaines de partisans. Les rebelles et les troupes de Bachar el-Assad au même plan, selon Human Rights Watch. Les rebelles syriens se livrent à des crimes de guerre. L'ONG affirme avoir recensé des cas de torture et des exécutions de détenus par les opposants au régime. Human Rights Watch dit avoir aussi récupéré des vidéos montrant ainsi des insurgés jetant des corps depuis le haut d'immeubles, tandis que d'autres paradent devant les cadavres de soldats en uniforme, les mains attachées dans le dos. Des propos qui confirment en fait ce tenu ce matin par les enquêteurs des Nations Unies. Eux aussi affirment que des crimes de guerre ont été commis des deux côtés et il demande au Conseil de sécurité de l'ONU de saisir la Cour pénale internationale. Les syndicats de l'usine PSA d'Aulnay appellent aujourd'hui à manifester devant l'Élysée. Une manifestation prévue pour jeudi. Une délégation devrait être reçue par François Hollande. L'Élysée n'a pas encore confirmé de son côté. ArcelorMittal annonce aujourd'hui retirer son plan d'investissement de 138 millions d'euros pour l'usine de Liège en Belgique. Il y a un blocage selon la direction avec les syndicats sur le volet social du plan de licenciement. ArcelorMittal avait en effet annoncé en octobre 2011 la fermeture de 2 hauts fourneaux jugés peu compétitifs. Cette fermeture devrait se solder par la suppression de 795 postes. Washington n'apprécie pas les méthodes chinoises en matière d'exportation de ses voitures. Le ministère américain du commerce extérieur a confirmé aujourd'hui avoir saisi l'Organisation mondiale du commerce. Les États-Unis accusent donc Pékin de favoriser illégalement l'exportation de ses voitures via des subventions. Le droit de vote des étrangers aux élections locales, un calcul électoral en vue des prochaines municipales. La critique est signée Éric Ciotti, aujourd'hui député UMP. Il dénonce l'imposture idéologique dont font preuve, selon lui, les cadres socialistes qui s'expriment cet après-midi dans le journal Le Monde. 75 députés PS ont signé une tribune pour rappeler à François Hollande sa promesse de campagne. Elle tarde à venir, selon eux. Réponse de Manuel Valls, toujours dans Le Monde. Le ministre de l'Intérieur pense que ce n'est pas pour l'instant une revendication forte de la société. 35 personnes ont été interpellées aujourd'hui dans le quartier de Wall Street à New York, interpellées lors d'une manifestation du mouvement Occupy qui célébrait là son premier anniversaire. Les 300 manifestants ont essayé sans succès de s'approcher de la bourse de New York pour dénoncer l'avidité des plus riches et les inégalités. Par ailleurs, on l'apprend à l'instant, Édouard Leclerc, 85 ans, le fondateur de l'enseigne de grande distribution du même nom, est mort aujourd'hui à Saint-Divy dans le Finistère. Édouard Leclerc était donc le fondateur des centres Leclerc, une coopérative à l'époque de patron propriétaire né dans un hangar breton et propulsé aujourd'hui au rang de première enseigne française de distribution alimentaire. Vous écoutez France Inter, 16h03.
Chers amis, bonjour, c'est Nicolas Stoufflet pour le jeu des 1000 euros. Je vous donne rendez-vous pour des enregistrements en public dans le Cantal, aujourd'hui lundi à Murat, sous la halle couverte à 19h, et demain mardi à Rion-Es-Montagne, au gymnase à 18h30. A très bientôt dans le Cantal.
France Inter.
La voix est libre.
Allez, c'est à vous Frédéric L'Odéon, bonjour.
Bonjour Laetitia.
Carrefour de l'Odéon, avec le Festival d'Île-de-France. 29 concerts en septembre et octobre, dans 26 lieux du patrimoine francilien.
Carrefour de l'Odéon.
Bonjour à tous, un anniversaire encore, pas tout à fait aujourd'hui, mais enfin bientôt on va célébrer la naissance et honorer la mémoire de Glenn Gould qui était né il y a à peu près 80 ans et puis qui nous a quittés il y a à peu près 30 ans. Tout ça pour dire qu'il y a un double CD qui vient de paraître chez Sony Classical avec un DVD aussi qui le montre jouant dans son attitude particulière avec sa chaise complètement démolie, très très basse d'ailleurs, des doigts comme des araignées, vraiment une attitude toute voûtée, toute courbée. Un personnage étonnant qui avait dit d'ailleurs j'arrêterai de jouer du piano à 50 ans pour faire autre chose. On sait qu'il voulait diriger simplement, c'était un formidable architecte de la musique, mais il est mort à 50 ans, donc faire autre chose, voilà, il aurait voulu, mais le destin en a jugé autrement, en a décidé autrement. C'est tout à fait recommandable bien sûr d'écouter les variations Goldberg par exemple, le concerto italien, les suites anglaises ou les partitas jouées par Glenn Gould, c'est particulier, quelquefois ça peut choquer, il y a des pages du clavier bien tempéré, par exemple, qui ont fait sauter sur leur chaise bien des mélomanes. Et puis aussi cette perfection incroyable, cette rigueur absolue, côté presque de mécanique, on dit certains de ses détracteurs, mais cet amour de la musique indiscutable. Et de toute façon, c'est un personnage tellement important que si vous tapez Glenn Gould Bach dans Google, on obtenait, par exemple, aujourd'hui, c'est encore plus, mais on obtenait le 8 avril de cette année 4 610 000 résultats en moins d'une seconde. Donc, tous ces débats autour de Glenn Gould, ça prouve bien que l'interprète est très très vivant encore 30 ans après sa mort. Voici la gigue de la deuxième suite anglaise de Jean-Sébastien Bach par Glenn Gould. Thank you. musique de la deuxième suite anglaise de Jean-Sébastien Bach par Glenn Gould. Et il a joué aussi avec orchestre assez peu, puisque Glenn Gould n'a pas voulu continuer la grande carrière qui s'était ouverte à lui. Il trouvait que c'était un métier épouvantable, qu'on se sentait comme un taureau dans l'arène, qu'il y avait des voyages éprouvants, des rencontres, des discussions, des critiques, enfin tout ça, que c'était tout à fait indigne d'un musicien. Et il a préféré s'enfermer, enregistrer, faire une carrière uniquement par le disque, la radio éventuellement. Mais on a quelques traces quand même d'une sortie de Glenn Gould dans Jean-Sébastien Bach, par exemple, puisqu'il a vraiment collaboré avec un orchestre, c'était rarissime. Il faut dire qu'une fois, il y avait eu une expérience avec Leonard Bernstein. Gould avait un tempo tellement lent que Bernstein a dû faire une annonce. Il a dit « Nous, les collègues, on va essayer de l'accompagner. » Mais enfin, je suis absolument contre cette idée de jouer aussi lentement, mais nous allons